Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ouais, j'ai un cinquième quart d'heure à vous raconter là.
La la la.
Oh, c'est vrai.
Oh, oh la vache.
Oh, y a...
Il est énervé celui-ci.
Moi, j'ai hâte.
Quelle heure est-il?
Ah, faut dire maintenant.
Mesdames et messieurs, bonsoir.
Facile, 4 quarts.
1 quart K6.
4 jours et un micro.
1 quart citron. 1 quart en bas.
On va pas du tout baser autour de l'apéro.
Je suis en train de tout remettre en question.
Tu veux qu'on prenne 5 minutes?
Je pense qu'on est plus à 5 minutes près, hein. Quatre quarts d'heure, le podcast qui dure.
Quatre quarts d'heure.
Je suis Louise Petrouchka, votre hôte pour aujourd'hui, et je suis en merveilleuse compagnie, toujours avec mes super acolytes, Alix Martineau.
Ouais.
Marty Chouin.
Camille Laurent.
Oh, Camille Lolos. Hi, hi, Lolos.
Et pour ce dernier épisode de l'année, car après on prend une semaine de vacances, on a l'honneur de recevoir Swann Périssé.
Oh là là.
Wow, Swann Périssé.
Mais une star internationale. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas Swann Périssé, déjà vous ratez quelque chose dans votre vie. Voilà, déjà je vous le dis tout de suite. Swann, c'est une artiste, une humoriste, une comédienne, une youtubeuse, créatrice de contenu.
Tout à fait. T'as toutes ces définitions me vont.
Une rolleriste.
Okay. Une rolleriste aussi, ouais.
J'ai mes rollers au pied.
Tu fais un podcast qui s'appelle Il y a plus de saisons, qui est dispo partout sur les applications de podcast et sur YouTube. Et en gros, l'idée, c'est d'interviewer des gens pour parler de la crise climatique et de réfléchir un peu à quel est le monde dans lequel on va vivre si on ne fait rien pour arrêter cette crise climatique. Donc c'est un peu pince sans rire, très gaulerie.
C'est gaulerie.
Et surtout...
C'est aussi un spectacle de stand-up.
Voilà,
en fait.
Et surtout c'est aussi en public. Donc du coup, vous avez, tu reçois des invités en public et du coup c'est tout...
c'est grosse marade alternée avec grosse déprime.
Voilà.
C'est un peu comme ici.
Bah oui, c'est vrai.
C'est la même chose.
On est moins engagé politiquement, mais sinon, c'est la même chose.
Un peu grou, beaucoup plus la même que Swann.
Je suis inspirée de vous avec des gens qui ont un tout petit peu plus de connaissances sur le climat.
Ouais,
mais
voilà.
Globalement, c'est vous qui m'avez inspirée.
Et aussi, tu as un spectacle que tu joues à partir du 11 janvier 2024, donc très très bientôt, qui s'appelle Calme. Donc ça sera au Palais des Glaces à Paris du jeudi au samedi jusqu'en mars 2024. Et après, tu seras en tournée un peu partout en France.
Tout à fait.
Okay. Putain. Génial de dire, je serai en tournée partout.
Ouais, ouais. Attends, je peux le dire ?
Ouais, vas-y.
Je serai en tournée dans toute la France.
Oh, ah,
je crois que c'est la première fois de ma vie.
C'est comme la Star Academy. Quoi.
C'est comme la Star Academy.
On fait que parler de ça en ce moment. Juste pour vous prévenir, du coup, c'est le dernier épisode de l'année. Donc, déjà, on vous souhaite de très bonnes fêtes en avance, puisqu'on ne sera pas là la semaine prochaine. Oh. On revient début janvier pour votre plus grand plaisir. J'espère que vous allez bien manger et ne pas vous disputer avec les membres de votre famille pour ceux et celles qui fêtent
bon
Noël. Et pour tous les autres, on pense à vous, car moi-même, je ne fête pas Noël. Donc, big up à vous tous et toutes. Et juste avant de commencer cet épisode, je voulais juste rappeler que le cinquième quart d'heure existe.
Ah oui,
le cinquième quart d'heure, c'est un
cinquième quart d'heure
is real. C'est un quart d'heure en plus toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner, ça coûte 8,40 euros
avec la TVA. Ouais.
Voilà, exactement. Et c'est un quart d'heure en exclusivité. Et je voudrais vous rappeler que c'est sur les applications de podcast seulement via un flux privé. Donc si vous nous écoutez sur Spotify, car j'ai regardé, il y a plein de gens qui nous écoutent sur Spotify, c'est super.
Eh oui, c'est top.
Mais personnellement, je serais à vous, j'utiliserai des applications de podcast, comme ça vous pouvez vous abonner au cinquième quart d'heure et vous avez juste à hop switcher de flux RSS et vous avez tous les épisodes plus les cinquièmes quart d'heure. Voilà, maintenant que j'ai fait mon petit pitch d'intro, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez, on commence toujours par un down pour finir par un up, et il me semble que Alix a de quoi nous déprimer avec un gros down.
Allez,
pour débuter cet épisode.
J'ai un énorme down. Alors, c'est un down qui commence vraiment par un up.
Ok, roller coaster.
Parce que donc j'ai un cousin qui s'appelle Victor, qui est un
crayon.
Illustrateur. Victor Crayon, ouais. C'est toi qui as dit
oui,
crayon ?
Bien sûr.
Ah, tu sais.
Bah oui, oui, tout le monde connaît Victor Crayon.
C'est une guitare de 4 quarts d'heure.
J'ai couché avec lui, c'est trop bizarre. Bah oui, c'est mon mec.
Ouais. Ok, bon bah.
Mais oui, écoute, t'en as déjà parlé.
Mais j'en parle tout le temps alors.
Bah oui,
bah oui. Une... puis ça se retient bien quoi, Victor ouais. Crayon,
Victor
l'illustrateur.
Crayon, voilà. Voilà. Donc vous pouvez aller le suivre sur Instagram si vous avez envie. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a les meilleurs recos en termes de séries.
Ok.
Et donc j'écoute toujours ce qu'il me dit. Et récemment, il m'a écrit en caps lock, Alix, pourquoi on n'a pas encore parlé de Jury Duty sur Amazon? Est-ce que vous en avez entendu parler?
Non, jamais entendu parler. Tout.
Et c'est incroyable parce que c'est quand même sorti en avril 2023.
Ouais.
On n'a pas vraiment... Enfin, moi, j'ai rien vu passer dessus, tu vois.
Et peut-être que tu vas le justifier dans une minute.
Ouais, non, franchement, non, franchement c'est trop ouf pour qu'on n'en ait pas entendu parler. Je vous explique le concept. C'est un procès. Mm-hmm. Et tu sais, aux États-Unis, tu peux être choisi pour faire partie d'un jury.
D'où le nom, Jury Duty.
Voilà, tu es appelé et il y a plein de gens, tu sais, qui font.
En France aussi,
En France aussi, ouais.
En France aussi, on peut.
Ouais.
Bah, super, genre, je ne savais pas.
Dans les maxi crimes.
Et ouais. Ben eux, ça peut être pas forcément
le
pour les maxi crimes en fait.
Maxi crimes.
Il y a les mini-crimes.
Mini-crimes. Les maxi crimes. Pénal quoi.
Non. Ouais, mais là, c'est pas pénal le procès, donc je sais pas.
Ok, non, mais j'arrête de faire croire que je sais les
trucs. T'as fait des études de droit, Camille, on le sait tous.
Et donc, c'est l'histoire d'un procès, enfin du... Non, c'est l'histoire...
Comment le dire?
Allez. Donc...
Hyper
bien pitché. Il y a un procès.
Je comprends mieux pourquoi c'est le down.
Qu'on suit.
Quelqu'un qui n'arrive pas à pitcher un truc pendant une demi-heure.
C'est 8 épisodes de quelqu'un qui galère à pitcher. C'est un procès qu'on suit à travers les yeux de quelqu'un qui a été sélectionné pour faire partie d'un jury pour un procès. Et qui croit qu'on est en train de tourner un documentaire sur ce que c'est que la vie de jury. Sauf qu'il ne sait pas qu'autour de lui, ce ne sont que des acteurs et c'est un faux procès.
Oh my god!
Et donc c'est entre le
donc
Truman Show.
Attends, il croit que c'est un vrai procès ou il croit que c'est un faux procès?
Il croit que c'est vrai et que les caméras sont là pour faire un docu.
Voilà.
D'accord.
Et en fait c'est two staged
et tout
pour
est
lui.
Faux.
Donc
oh
Truman Show
Dieu
de fou!
Voilà.
Ah, tu dois
horrible!
Être, quand tu dois savoir à la fin que c'était staged, tu dois plus vivre dans, une, dans la réalité, tu dois être tout le temps en train de croire qu'on est en train de te
bah
faire.
C'est un peu
quelqu'un
down.
À la Claire. À la Claire Fontaine. De mort, à la Claire Fontaine.
J'ai pensé à ça aussi.
T'envoies quelqu'un à la peine de mort et tout et genre...
Non parce que du coup c'est pas un procès trop grave, en gros ça implique la responsabilité civile de quelqu'un ou non quoi.
Ok,
enfin,
donc
en
c'est
plus,
un peu nul
procès...
ça fait baisser,
ouais,
mais l'enjeu de la série.
Ouais mais non, enfin, parce que l'enjeu de la série...
Ils avaient pas
c'est
le budget
que...
make-up pour montrer un crime quoi.
Non mais c'est ça, y a pas de crime, mais juste tous les gens qui sont autour ne sont que des acteurs, tous les autres jurés sont des acteurs et donc... Il leur arrive des trucs pas possibles, tu vois. Et donc, eux, pareil, en tant qu'acteurs, je me dis, c'est fou d'être... Je crois qu'il reste 15 jours, quand même, séquestré et tout. Donc, tu dois être 15 jours en personnage.
Mais attends, c'est pas une fiction dont on parle.
Non.
Non, c'est... Enfin, c'est une fiction, mais...
Ah,
nous,
c'est une fiction.
Bah, ah, c'est pas un film.
Est-ce
un
que
documentaire.
C'est une fiction ou est-ce que c'est de la télé-réalité?
C'est de la télé-réalité.
Ah, ça
mais...
s'est vraiment passé, ça?
Oui, c'est un vrai
on
truc.
On dirait que c'est une fiction.
J'ai cru que c'était une série en mode c'est l'histoire.
Non.
Mais non, le gars, il est
le
vraiment
gars,
piégé.
Vraiment
vrai.
Pas. Il est vraiment piégé. Okay. C'est une caméra cachée qui dure 15 jours.
Waouh.
Et ça,
c'est hyper flippant.
C'est méga flippant. C'est Truman Show, tu vois. Et du coup, le juge est un faux juge. Il n'arrive que des trucs de malade. Et notamment, il y a un juré qui est James Marsden. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
Non.
Vous tapez son nom sur Internet, vous allez dire « Ah, mais oui, le gars qui ressemble à Chris Pine !» Eh ben, c'est un acteur hollywoodien, mais qui est super connu, tu vois, qui a été sélectionné pour faire le juré, enfin, soi-disant. Et il joue le gros con de A à Z, tu vois. Et en fait, c'est que des dilemmes aussi un peu moraux présentés au gars. Mmh. Et en fait, je ne sais pas. En regardant cette série, je me suis dit, c'est fou. C'est à la fois ma pire peur, parce que je vous ai déjà parlé du fait que j'ai été traumatisée par le Truman Show,
ouais.
Et donc que ça m'arrive un jour, je pense que ça me ferait péter les plombs. Et surtout, mon down, c'est que j'ai pas trouvé comment ce gars a été casté. Parce qu'il faut quand même quelqu'un qui soit solide et qui soit pas un sombre connard. Parce que
c'est clair.
Imagine, je sais pas.
Tu peux nous spoiler ou pas à la fin, tout le monde est là, surprise, et tout le monde applaudit. Regarde, il y avait les caméras. Oh,
exactement.
Non. J'ai tout.
Le
Est-ce
dernier épisode,
le
c'est un débrief.
What the fuck?
Sur, ils disent au gars, bon bah voilà. Et en fait, c'est un peu ce dernier épisode, mon down, parce que je trouvais que tout du long, c'était très bien foutu dans le sens où il le mettait jamais dans des situations. Alors, il le mettait bien sûr dans des situations super gênantes. Mmh. Genre, il y a un épisode avec le plombier, je vous laisse vous en délecter. vraiment, enfin, il fait genre, c'est lui qui a chié dans les toilettes. Bah, bref, c'est que des trucs comme ça, tu vois, c'est que des trucs débiles. Et pendant, pendant la série, le gars n'arrête pas de dire j'ai envie de faire un film sur ce qui se passe dans ce procès, ouf. Tellement c'est fou, tu vois.
Ah
et
là
genre,
là.
Tout le monde autour est là.
Ah là là.
If only you knew.
Ouais, c'est ça.
Et genre, tous les acteurs sont exceptionnels. Enfin, c'est vraiment, ils sont très très forts.
Mais du coup, ils ont dû caster aussi que des acteurs
ouais.
qui n'ont jamais fait des trucs de ouf parce que sinon, tu crames direct.
Bah,
tu vois.
À part James Marsden, mais du coup, qui joue son propre rôle.
Ah,
comme
ah,
un connard.
Propre okay. rôle.
Et il joue son propre rôle. Il fait
parce
James Marsden
gars,
qui vient d'Hollywood, qui va faire son jury duty, tu vois.
Ah là là.
C'est hilarant. Et mon cousin, du coup, Victor, est fan d'impro. Et il fait de l'impro. Et donc, il disait, mais c'est super inspirant. Et en même temps, je me disais, mais putain, quand donc, il dévoile la vérité au type, j'ai trouvé ça un peu cringe. Parce que très américain, tu vois, très... eh bien voilà, il n'y avait pas de procès, mais le procès, c'était un peu le tien. Donc, on t'a testé pendant une semaine et j'étais là.
Mais
c'est... horrible.
Vous êtes trop bizarres les Américains.
C'est quoi le but? Enfin, c'est quoi le
ouais,
but
ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Genre, c'est quoi le but de tester quelqu'un,
ouais.
un inconnu,
mais
tu vois. Enfin,
les gens, ils adorent ça. Tu vois, genre, on adore ça. On est les premiers à regarder ce genre de truc de genre comment telle personne va réagir.
Bah ouais.
Ça me rappelle, il y avait une espèce de télé-réalité Netflix qui commençait pendant les castings où en fait les gens étaient déjà filmés et ils commençaient déjà à faire des trucs, mais il faisait croire aux gens dans la télé-réalité que la télé-réalité n'avait pas commencé. Donc les gens étaient filmés à leur insu, pareil, où ils
c'est
étaient pas.
Hyper malsain.
Là, ouais. pour le coup, ils étaient même pas au courant qu'ils étaient filmés.
Ah, ça, c'est fou quand même.
Donc,
même en termes de
horrible,
droit, c'est
tu
bizarre.
Vois. Mais ouais. oui. Et pareil, dans cette série Netflix, j'ai oublié le nom, c'est un truc espagnol, je crois. Ils font. Tu sais, genre, ils leur font des tests, pareil, un peu de morale et tout, en mode. Il y a un présentateur qui leur dit maintenant, faut tirer sur un lapin. Et ils sont en mode, bah non, on va pas tirer sur un lapin pour tuer un lapin. Enfin, genre vraiment, littéralement, il faut tirer avec un gun, tu vois. Et il y en a, ils sont en mode, ok, zéro hésitation. Il y en a d'autres, ils sont en mode, mais ça va pas à la tête. Enfin, je vais pas tirer sur un lapin juste pour rentrer dans votre télé-réalité. Ça n'a aucun sens.
Ça fait penser aussi... Ouais, pardon.
Et non, mais juste, je trouve que c'est un truc où, genre, eux, ils sont en mode... Tu sais, genre, les gens qui font ces télé-réalités-là, documentaires, ils sont en mode, on va questionner la morale des gens et tout. Je suis en mode, mais personne questionne votre morale à
mais
vous,
c'est
en fait,
ça.
Vous êtes bizarre.
Et c'est ça que j'ai trouvé chiant parce que je trouve le concept super gaulerie parce qu'il lui arrive rien de grave, puis si tu veux c'est pas un procès alors qu'il et puis en plus il est super, enfin le gars est super tu vois, mais heureusement je ne sais pas comment ils l'ont casté tu vois, mais il est super, il prend toutes les bonnes décisions et donc ouais. à la fin ils sont là ouais t'es un héros parce que t'as fait ci t'as fait ça, il est là bah moi j'ai vraiment juste fait ce qui me semblait bien et
ouais.
je pense que tout le monde devrait faire ça, mais tu vois les Américains en mode c'est toi le héros de l'histoire et tout, et j'étais là c'est trop bizarre, pourquoi donner en fait un côté moral à ce truc qui est fondamentalement immoral, et je pense que c'est pour ça qu'on en a peut-être pas entendu parler parce que c'est tellement américain comme
ouais.
façon de voir les choses, je pense que ça aurait posé de problèmes à plein de gens, enfin moi vraiment ça m'a questionnée, je me suis dit mais
peut-être c'est ce dont tu voulais parler Camille, des tests qui ont été faits avec
de push, ça pour... s'appelait je crois.
C'était le truc où t'appuies, il y a des décharges électriques de l'autre côté, non? C'est pas ça?
C'était un peu ce genre-là, je crois. Je sais pas si d'ailleurs au début il y avait pas ça. C'était voilà pour tester le pouvoir de suggestion que tu peux avoir sur les gens, et c'était un hypnotiseur, je crois, qui poussait petit à petit les gens à pousser quelqu'un d'un immeuble.
Oh, mais
ou
quoi?
À tirer, je sais plus s'il devait tirer. Je crois que ça s'appelait de push et que. En fait, il les embarquait ouais. dans tout un scénario, etc., où il leur faisait faire plein de trucs. Enfin, c'était une grosse caméra cachée et tout.
Il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites aussi pour voir à quel point les gens ils respectent le corps médical, par exemple.
Oui.
Et donc, tu arrives dans une pièce où il y a une vitre, et si tu appuies sur un bouton, la personne derrière la vitre a de plus en plus de décharges électriques
ouais.
dans le corps.
Ouais, horrible.
Et en fait, si le médecin a une blouse et que la personne est rémunérée, bah, ils vont carrément aller jusqu'à... Et ils voient quelqu'un qui hurle de douleur en face et ils infligent jusqu'à des décharges qui, soi-disant, sont mortelles ou presque, parce que la personne en face est par terre en train de se vomir dessus, etc.
Ouais.
Et il y a plein de gens qui vont jusqu'au bout, en fait, parce qu'il y a quelqu'un avec une blouse qui leur dit... Ils sont dans le système dans lequel ils sont payés pour faire ça, tu vois. Et il y a des gens qui s'arrêtent, qui disent bah, « je vais arrêter d'infliger du mal à cette personne ». Mais il y a plein de gens, et ça a été, toutes ces études, elles ont été faites notamment pour expliquer... enfin peut-être que je dis des bêtises, mais genre c'est de la criminologie en fait pour expliquer pourquoi les gens suivent des administrations quand il y a des génocides organisés, enfin des trucs hyper gore. Quand tu essaies de comprendre pourquoi des centaines de milliers de personnes ont participé à des génocides de millions de personnes, comment c'est possible qu'il y en ait pas un qui fasse excusez-moi, on a vraiment fabriqué ces chambres là, enfin tu vois. Et donc il y a plein de tests comme ça et tout, et donc des téléréalités comme ça qui montrent par exemple t'arrives dans une salle d'attente et il y a tout le monde qui se lève toutes les minutes et qui s'assoit toutes les minutes. Et en fait, il y a des gens qui sont pas du tout habitués, qui arrivent et qui voient tout le monde se lever et s'asseoir. Et du coup, ils se lèvent et ils s'assoient, tu vois. Et à la fin, tous les gens qui sont formés et qui savent pourquoi ils se lèvent et qui s'assoient partent. Il y a plus que des gens qui se lèvent et qui s'assoient et qui savent pas pourquoi.
C'est
donc c'est terrifiant en fait de voir à quel point on fait ce qu'on voit, tu vois.
Mais c'est ça qui est.
Je veux être comme vous.
C'est ça.
Moi aussi, je veux
m'adapter, quoi, aussi.
Mais non, mais c'est intéressant. Alors, rien à voir et à la fois tout à voir. Hier, je regardais un documentaire de Brut où il y a un mec qui a fait un mois sans écran. Enfin, pas lui, mais c'est un journaliste de Brut qui demande à deux couples et deux ados de faire un mois sans écran. Les couples, ils ont, y en a un qui a un couple de soixantenaire. Il y en a un, c'est un couple de trentenaire. Et les petites, elles ont 15 et 10 ans. Et en fait, elles font qu'une semaine sans écran parce qu'elles sont en mode un mois, je vois pas comment faire. Et il y a un docteur en neurosciences qui a un peu débrief tout ce qui se passe sur ce qu'ils ont filmé et tout. Et les petites, elles sont en mode c'est hyper dur de pas avoir d'écran puisqu'en fait, à l'école, tout le monde a un téléphone et machin. Et donc, en fait, tu te retrouves solo à pas voir les trucs, pas savoir. Et en fait, c'est juste, ça t'exclut du groupe social. Donc, en fait, il y a aussi ça qui est intéressant dans ce genre de truc. C'est du coup, bah oui, si tu fais pas le assis debout, tu deviens un peu genre le
paria, ouais.
Ouais, c'est ça. Tu fais pas partie du groupe social. Donc, ouais, t'as un peu envie de faire partie de la bande. Donc, tu fais comme on dit. Et du coup, je trouve que c'est intéressant sur la société de manière générale, de voir comment est-ce que les groupes sociaux se créent et pourquoi est-ce qu'on fait les trucs souvent par imitation plus que par envie, tu vois.
C'est flippant de
par désir d'appartenir,
mais,
ouais.
Mais tu vois, moi, le truc qui m'a posé vraiment problème avec cette série, c'est que justement, c'était pas un test.
Enfin, ouais, bien sûr.
Tout du long, en fait, ce n'est pas un test, c'est un truc de divertissement ou juste...
Il se fout de la gueule de ce pauvre gars qui est
grave gentil. C'est pas des scientifiques qui font des études.
Il se fout pas vraiment de sa gueule, tu vois, parce qu'il est mêlé à des situations qui sont gauleries, tu vois. Mais... personne va se pencher dessus, je sais pas, c'est juste du pur divertissement. Et après ils sont là, bravo, t'as pas dénoncé machin qui avait fait caca dans les toilettes, et je suis là, ouais, enfin c'est pas non plus un test de, tu vois, c'est pas, en fait ils ont fait passer ça pour un truc, je sais pas pourquoi ce dernier épisode existe, parce que parce qu'ils essaient
de
faire passer la pilule
la morale de l'histoire,
ouais, c'est ça,
marché,
de trouver la raison pour laquelle tu mets quelqu'un pendant 15 jours.
Ouais, ça c'est grave. Hein.
Tu crées un truc autour de lui,
tu
vois.
Le manipules.
Tu manipules quelqu'un.
C'est fou, hein.
Mensonge organisé. Genre,
et t'essaies de trouver une justification là-dessus. Et c'est fou. Et d'ailleurs, le gars, j'ai regardé des interviews de lui, il a dit que pendant plusieurs semaines après, ça lui a quand même repopé.
Mais bien sûr, parano,
et
parano.
Tu vois. Enfin, il était quand même dans une institution, genre la justice, la justice américaine.
Ça brise ta confiance en tout, quoi.
Ah, mais c'est ça, fou. Tu te dis.
Après, tu te demandes ce qu'est la réalité ou pas, quoi.
Ouais.
Bon, après, mais bon, peut-être ça va lui changer la vie en bien. Hein. Il va se dire, la réalité, c'est celle que je crée.
Tout ça avec une grande mascarade.
Non, mais heureusement, parfois, c'était tellement con qu'il y a des moments où il a cru. En fait, il a dit au début,
c'est bizarre.
Tout le monde était super chelou, tu vois. Enfin, mais au fur et à mesure, t'es dedans. Et puis tu te dis. Et puis tu vois, à la fin, il voit une flic, il fait, mais t'es pas une vraie flic ? Il fait, mais bien sûr que non. Et enfin, tu vois, il y a que des trucs comme ça. Et après, ils sont malins parce que je trouve que c'est jamais trop à son détriment.
Oui, puis c'est pas un truc de meurtre. Maintenant, je comprends.
C'est pas
mieux.
Un truc de meurtre.
Ouais, sinon, ça te fout en l'air.
Non. Sinon, t'imagines. Mais déjà, il a pris la bonne décision, mais c'était pas. Enfin, c'est pas gagné, tu vois. Enfin bref, voilà. C'était mon dernier,
moi.
Franchement, c'est trop intéressant.
Rappelle le nom.
Jury Duty.
Ok.
Dans les notes de ce podcast.
Très bien. Eh bien, écoute, merci pour ce débat sur la morale. On va passer à un up. Camille Laurent, que se passe-t-il dans ta vie de ravissant ?
Eh bien, je vais vous raconter ma vie pas sexuelle.
Bravo.
Oh.
Mais ça arrive souvent que tu nous racontes ta vie pas sexuelle.
Ouais, là, ça fait longtemps que j'ai plus de vie sexuelle, mais j'essaie
Par contre, tu nous le dis à chaque fois.
Ça, c'est... parce que c'est troublant pour moi, parce que quand même, beaucoup de... Enfin, ça prenait une grande place dans ma vie, quoi. Ouais. Tu vois, de par mes névroses. qui me forçaient à sucer la terre entière. Coupez ça, merci. Non,
tu sais que non.
Et ben, ces dernières années, je ne suce plus personne. Vous arrivez trop tard, les gens qui vous laissent faire sucer. Moi, ce que je fais maintenant, et c'est mon up, c'est des plans dodo. Ouais.
Des plans dodo.
Je pense que c'est le next step de la hookup culture, tu vois, où on a trop ken. On s'est trop pécho sur les applis. On a trop fait de dates, on n'en peut plus. On est tous en Tinder burnout, tu vois. Et je crois que le next step, c'est le plan dodo.
Mais ouais, tu m'en as parlé là ce week-end, mais j'avoue, je sais pas...
T'as des plans avec qui tu dors?
J'en ai
tu dors.
Un.
Ah, alors raconte.
Ben, j'en ai un, il habite pas loin de chez moi. Je pense que lui aussi, il a été traumatisé un peu par cette culture du sexe rapide et facile, tu vois, où parfois tu t'écoutes pas et, ouais. Et tu consommes un peu du sexe pour, je sais pas, transcender ton mal-être ou je ne sais quoi, tu vois, te sentir vivant. Ou même, je pense souvent, et moi c'était mon cas, t'as envie de te connecter émotionnellement, affectivement aux gens et ta monnaie d'échange, c'est le sexe, tu vois, donc tu vas donner du sexe pour avoir un peu de chaleur humaine.
Ouais.
C'est déprimant.
Après, tu te fais ghoster. Enfin, c'est
ouais, ouais, après, voilà, t'as tout.
T'es enceinte. Tu
oh là là, trop chiant.
Hyper relou.
Tu voulais juste un câlin et tu dois avorter.
Tu dois élever une famille pour le reste de tes jours.
Oh my god.
Beaucoup It's de conséquences pour un peu d'affection.
Et donc. Depuis quelques années, mais même chez Mademoiselle, je crois qu'Océane, elle avait écrit un article là-dessus, tu sais, sur les plans dodo et tout. Ça, je crois que ça commence à arriver. J'ai vu un gars aussi en story, là, un humoriste, dire « Comment on fait pour trouver un plan dodo? Je ne veux pas baiser, je veux juste dormir avec quelqu'un. » Et pendant longtemps, moi-même, j'ai essayé avec des gens qui n'étaient pas totalement convaincus par le concept du plan dodo et qui disaient « Ouais, ouais, t'inquiète, on va juste dormir, bien sûr. »
On les connaît, ouais.
Et qui après, va se frotter dans ton dos, tu vois. Et après, tu te sens un peu obligé parce que t'es ouais, là, est-ce que je suis une allumeuse? Parce que je l'ai mis dans un lit avec pas beaucoup d'habits et c'est
on
normal.
On l'appelle la
coup.
Cuillère menaçante.
La cuillère sauvage. The danger spoon. Ça peut déraper à tout moment. Et donc, j'avais
on
fini
rigole,
par
mais
me
l'enfer.
Dire... En fait, Camille, arrête de rêver, tu vois. Si tu mets un homme à côté de ton corps de rêve sous une couette, forcément, ça va déraper. Et moi-même, je dérapais, tu vois, parce que moi-même, je finissais par être excitée et par dire oh, « bah d'accord, allez, vite fait, allez, un petit doigt, allez, vas-y !» Mais après, je sortais de là déçue, parce ouais. que j'étais là « Non, putain, je voulais pas, Nadani. Ouais. » Enfin, non, pas « je voulais pas, mais...
» Oula, oula.
Je m'étais engagée un peu envers moi-même, tu vois, ouais. à faire... essayer de trouver d'autres modes de relation, tu vois. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui a l'air ravi de juste dormir, tu vois. Donc
vous avez
super.
Jamais ken.
Bah, ça fait plusieurs mois qu'on relationne, et oui, il y a une fois où on a ken, mais j'ai l'impression, encore une fois, parce qu'on se sentait un peu, pas obligé, mais tu vois, un peu en mode, bon bah... On est là, je sais pas, on se galoche et du coup ça monte dans les tours et voilà. Et là, les dernières fois qu'on a dormi ensemble, même pas on s'embrasse pas vraiment, tu vois. Juste on regarde le film, on est dans les bras, on se papouille.
Quelle est la différence entre ça et un amoureux en fait? Parce que est-ce que être en couple, c'est pas justement arrêter d'avoir la pression de faire du sexe tout le temps au début,
c'est
tu vois
ça. En fait, c'est comme est-ce si
on était en train de nous dire que t'as un petit copain et que tu sors de finir. Est-ce que t'es en train de nous dire je sors avec quelqu'un et on n'est pas obligé de ken?
En fait,
pour...
je sors avec quelqu'un depuis 10 ans et c'est la même chose. Mais non, la différence, c'est que bah, on n'a pas d'engagement vraiment, tu vois. En fait, c'est comme des friends with benefits, mais le bénéfice s'arrête.
Mais t'es amoureuse de lui?
Non.
Non, le bénéfice, c'est juste d'avoir de la tendresse, en fait.
Ouais, de ouf.
Et
de
question...
pouvoir parler de tout, tu vois, on a une chouette relation ouais. amicale.
La
ailleurs,
question que je me pose, c'est justement, vous avez eu le talk de définir que vous êtes un plan dodo ou juste c'est un espèce de non-dit de genre, ça, juste on kenne pas?
Non, ça a été dit, mais je pense que c'est vraiment un concours de circonstances, tu vois, où, je sais pas, lui, il a eu trop de pression sur la virilité, bandée et tout, machin.
Ouais.
Et moi, j'ai eu trop de pression de « Ah, maintenant que j'ai parlé à cette personne, je crois que je dois coucher avec. » Et du coup, c'était deux moments de nos vies où on était là, bon ben oui, d'accord, je veux bien venir chez toi, mais par contre, je veux pas faire de sexe. Ah ben moi pareil, alors vas-y, viens.
Et donc là, vous avez dit, on fait plus jamais de sexe, ou vous le dites, vous définissez tous les soirs où vous voulez.
Non, là, par exemple, la dernière fois, on n'a pas vraiment dit, mais juste... Enfin, bah, il savait que j'avais mes règles, que j'étais fatiguée. Enfin, ouais. Là, c'était entendu, quoi.
Et j'ai une question par rapport au plan dodo. Est-ce que le plan petit-déj est inclus dedans? C'est un plan... Ça s'arrête où, tu vois?
Ça peut inclure le petit-déj.
Ça peut inclure un déj, ça peut inclure un dîner. Est-ce que tu finis par passer ta vie avec sans même t'en rendre compte?
En fait, maintenant, c'est mon colloque. Mais ouais, ça peut inclure le petit-déj... Et c'est pas exclu qu'un jour on ken, tu vois. Juste, moi, je suis tellement pas dans un mood de ken. En fait, j'arrive plus à prendre au sérieux le sexe, on dirait. Genre, j'arrive plus à faire genre... je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'être zinzin.
Tu vois, genre, t'arrives pas à le prendre au sérieux. Genre, quand tu commences à...
J'arrive pas
à... T'arrives pas à rentrer dans le personnage.
Ouais, c'est ça. Mais peut-être...
T'as envie d'avoir une sexualité différente, en fait.
Peut-être.
Ouais, je pense, hein. Si je puis me permettre,
mais
en tant
que psy. Des relations affectives différentes aussi. Et tu vois, j'aime bien que je sois pas zinzin de lui, tu vois. Je l'aime beaucoup, je le trouve cool et tout, je le trouve grave cool. Mais ça me rend pas zinz. Et ça, c'est bien.
Ça, c'est bien.
Parce que c'est pas sain d'être zinz.
Un nouveau step dans la vie de Camille.
Ouais.
Ouais.
C'est
très peut-être important. Que tu prends juste ton temps pour apprendre à découvrir quelqu'un et
la tempérance.
À savoir si t'as envie de relationner différemment avec cette personne.
Mais quelle nouveauté pour moi, quoi. Et je me suis dit, c'est bien que j'en parle quand t'es là, Swan, parce que toi, j'ai l'impression que t'expérimentes aussi.
Oula, on va aller sur ma vie amoureuse.
Non, on n'est pas obligé.
Non, mais en fait, moi, s'il y a bien un truc que j'ai compris sur la vie amoureuse au fur et à mesure, c'est que je croyais tout savoir et je ne sais rien, tu vois. Vraiment, je suis surprise à chaque fois des nuances entre les relations des uns, des autres. En plus, moi, j'ai 33 ans, donc de plus en plus, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui vivaient soit célibataires, soit sans se poser de questions et qui, si ils et elles veulent des enfants, il leur reste, tu vois, entre maintenant et dans 5 ans. Donc, ça commence à réfléchir, mais ça correspond pas du tout à leur mode de vie. Donc, je trouve que de plus en plus, tu peux relationner hyper différemment, quoi. Ouais. Je connais des gens qui essayent de rompre depuis 4 ans et ils n'arrivent pas à rompre. Quand ils rompent, ils sont là-bas, mais on s'aime toujours, on trouve pas mieux ailleurs. Mais il y en a un qui veut plein d'enfants, l'autre, elle veut pas d'enfants. Donc, y a des gens qui s'aiment hyper différemment, quoi. Donc, de plus en plus, je suis à l'écoute, ça m'est rarement arrivé, et pleine de stupeur face à des situations où je me dis, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas fait semblant qu'on savait coller des définitions à tous et à toutes, des titres, tu vois. Rien que le fait que tu dises, on échange de la tendresse, mais c'est que de la tendresse, c'est comme si dans ta tête et dans nos têtes à tous, il y avait soit de la tendresse, soit du sexe. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est... Ça peut découler, tu vois, la tendresse peut devenir du sexe, bien et sûr. Peut ne pas être du sexe, etc. Et je pense qu'en fait, au bout d'un moment, on arrive à un certain âge, on arrête de coller des définitions et des titres et on se laisse vivre, en fait, sans la pression de la société, quoi. Mais en tout cas, ça s'entend que c'est un up et je trouve ça trop chouette, quoi.
Nice.
Ouais.
Bon, j'enlève l'étiquette plan dodo, alors, c'est trop réducteur, mais c'est pour que vous compreniez le concept.
Bah ouais, c'est trop bien,
ouais, c'est trop ce concept. Cool.
Voilà.
Et donc, vous avez quand même une relation amicale en dehors de ça, quoi.
Ouais, on a des intérêts communs et tout, machin. Et la fois où on a ken, c'était pas...
Ouais, c'était pas dingos.
C'était pas dingos, mais parce
peut-être
que...
Peut-être parce que vous précipitiez et que vous aviez pas envie de ça, en fait.
C'était trop précipitant.
Peut-être qu'il y avait pas eu assez de communication sur, en fait, le plan dodo, c'est super.
Ouais.
La cuillère précipite.
J'ai écouté un podcast hier ou avant-hier sur les pieds sur terre. Et ça s'appelait l'abstinence. Donc je me suis dit, bon bah c'est ma vie maintenant, donc il faut que je regarde parce que.
Ah bon, c'est ta vie maintenant ?
Ouais, en fait moi j'ai une relation particulière. Enfin en fait je suis séparée de mon mari, je me suis mariée et on s'est séparés, ouais. Mais je le vis hyper bien et lui aussi. Donc c'est trop bizarre parce qu'on vit une histoire d'amour encore, mais on a décidé que nos plans de vie étaient différents. Donc c'est pour ça que je te dis je sais pas. Donc j'arrive pas à savoir si je suis hyper heureuse, sereine et qu'enfin j'arrive. À ma vie idéale qui est, en fait, je suis aimée, je ne suis pas abandonnée, j'ai du sexe, de la tendresse, de l'attention par quelqu'un qui m'aime et que j'aimerais toujours. Mais en même temps, on ne vit pas ensemble, on n'a pas de projet, on n'a pas de contraintes. Donc en fait, je me dis, est-ce que je suis dans un déni ou est-ce que c'est le bonheur absolu ? Enfin, tu vois, genre, je suis là, en fait, je me rends compte que ça me libère d'une façon énorme parce que j'ai été quittée, enfin voilà, on s'est séparés. Et je me sens ni abandonnée, ni mal aimée, ni en manque d'attention. Donc je me dis, c'est exceptionnel, quoi. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir une rupture, en tout cas une séparation, un changement de relation, sans me sentir frustrée, sans me sentir abandonnée et tout. Et je me dis, bah, c'est peut-être ça le vrai amour, quoi. C'est laisser les gens partir dans leur direction et continuer à être l'un pour l'autre. Donc je me rends pas compte. Voilà. Peut-être un grand déni, ouais. Peut-être un grand bonheur. Je sais pas trop.
Merci la thérapie, probablement.
Mais ouais, dans Les Pieds sur Terre, du coup, j'ai écouté un podcast sur l'abstinence. Donc malheureusement, c'était beaucoup de témoignages de gens proches du catholicisme. Donc ça, ouais, ça blurrait un peu, genre
des raisons religieuses, quoi.
Ouais, donc voilà, donc il y avait des gens qui avaient décidé d'être vierges jusqu'au mariage, c'était assez intéressant, mais j'avais déjà entendu beaucoup de témoignages comme ça. Mais il y avait aussi un couple pas mal religieux aussi, mais qui voulait se marier, qui était fiancé et qui avait énormément de relations sexuelles, et en fait ils se sont rendus compte que finalement ils voulaient ralentir énormément leur vie sexuelle avant le mariage pour apprendre à plus se connaître, à se toucher différemment, à s'écouter différemment. En gros, ils se sont rendus compte que ça prenait genre énormément de place dans leur vie et que ça les perturbait, qu'ils se touchaient mal, en fait ils se parlaient mal, ils se touchaient mal, ils se consommaient mal, tu vois. Et je trouvais ça assez intéressant d'avoir dans leur couple et pris un autre chemin sexuel et intime par choix, quoi, pour se donner l'occasion de créer ça différemment, quoi.
Oui, parce qu'aussi t'es un peu enfermé dans des codes, des schémas, enfin surtout dans les couples hétéros, j'imagine.
Tu vois, quand tu dis ouais le sexe c'était pas ouf, c'est parce que aucun d'entre vous n'avait envie de faire du sexe comme ça quand vous l'avez fait, je suppose.
Ouais.
J'étais pas dans la chambre, mais c'est ce que je déduis de ce que tu racontes, quoi.
Attends, on sait pas, dans la chambre, peut-être une caméra cachée.
Ouais, c'est ça.
C'était un documentaire.
Est-ce que c'est un acteur depuis le début, le gars?
Plan dodo duty.
Plan dodo duty.
Trop hâte de voir cette série. Bah écoute Cam, trop bien, bravo.
Bah, voilà,
pour ce nouveau tournant.
Ouais.
Dans ta vie sentimentale, sexuelle, I don't know, non sexuelle.
Ça c'est bien.
Bah, serein,
ça, c'est
bien, et hein. À l'écoute. Ouais. Ce sont tes deux mots.
Et tempérance.
Tempérance. Elles me font le fameux geste.
Oui.
Bah là, c'est grave tempéré, tu vois.
Bah ouais, c'est trop bien.
J'avais peur un peu au début de l'utiliser comme un doudou, tu vois.
Ouais, je comprends.
Mais en fait, je crois que c'est.
En fait, ils l'utilisent aussi comme un doudou.
Ouais.
Voilà. C'est donnant, donnant.
Putain, moi, ça m'arriverait jamais, ce genre de truc.
Mais pourquoi?
Don't say never.
Moi,
Alex.
J'ai commencé par me dire, je vais faire de l'abstinence.
Non, mais parce que j'aime pas dormir avec les gens.
Ça je ronfle.
Bah c'est un non, mais sujet. En fait, moi, j'aime bien dormir toute seule, tu vois. Enfin, après, j'aime bien dormir avec mes amoureux quand on a passé une bonne soirée et tout. Mais de manière régulière, j'inviterais pas quelqu'un à dormir chez moi, je pense.
Ouais, je comprends. Ah, moi, je suis pas non plus fan de dormir avec les gens, mais.
Mais parce que moi, je suis une célibataire endurcie, comme on dit.
Ouais, je comprends.
Célibatante.
Non, mais il y a une vérité qui est.
Célibataire.
Qui est tu dors mieux quand tu dors seule, en fait.
Paraît-il, j'ai lu ça dans un des livres de Fabien Olicard.
Ah,
qui dit vraiment pour la longévité, Fabien. Il faut avoir deux lits séparés.
Ah ouais. Ouais. Pour la longévité, carrément, tu. Ah,
ouais,
du couple ou de ta vie?
Non, de ta vie.
De ta vie.
Il dit tu dors mieux seule, ouais.
Ah merde.
Mais ça m'étonne pas. Mais moi, pendant un temps, ma mère et mon beau-père, ils faisaient chambre séparée et je comprenais app.
Mais il y a plein de gens.
Mais genre, adolescente, tu vois, j'étais en mode, je comprends pas, machin. Et maintenant, je suis en mode, mais bien sûr, en fait, si le gars, il ronfle la moitié de la nuit, je comprends que ma mère, elle a envie de dormir parce qu'elle se lève à 6 du mat, tu vois, genre, ça semble logique.
Après, bien sûr, il y a des moments où c'est agréable. Ouais, et moi, sûr. Je sais qu'il y a. J'ai des potes, et ça m'a un peu traumatisée, j'ai des potes qui me disaient à un moment, je ne peux pas dormir sans lui. Et quand on était très jeune, tu vois. Et je dis là, ah ouais, parce que ça fait flipper. Enfin, genre vraiment, tu dépends d'une autre personne pour dormir. Enfin, c'est compliqué, quoi.
Ouais.
Et moi, ça m'est jamais arrivé. Non, en général, je dors vraiment mieux toute seule.
Merci Camille pour ce up. On va passer à Swan.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Il y a un roller coaster pour nous.
Tout à fait.
C'est un up and down ou un down vers un up?
C'est un down vers un up.
Ok,
ah,
super.
C'est les meilleurs.
Ouais. Alors moi, c'est quelque chose que je traverse toute seule aussi et dont j'ai jamais parlé en podcast, jamais à personne. Et j'en parle ouais, très rarement, à part peut-être à ma coach psy. Mais je trouvais ça hyper intéressant d'en parler, surtout avec vous, les femmes artistes et créatrices. En fait, moi, donc ça fait depuis janvier 2023, donc presque un an, que j'ai repris la scène et que je suis retournée sur scène pour faire du stand-up. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai toujours été humoriste. Ça fait 10 ans que je suis humoriste, mais pendant 4 ans, j'ai arrêté d'aller sur scène. Donc, j'ai vraiment développé mon travail sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Et donc, en janvier, j'ai repris les scènes ouvertes, les plateaux, et j'ai commencé un spectacle en rodage qui est donc prêt, et qui est le spectacle qui commence le 11 janvier. Et en fait, je me suis fixé plein d'étapes vraiment de carrière et d'ambition au cours de cette exploitation de spectacle. Donc en général, un spectacle de stand-up, tu l'exploites entre 3 ans et 4 ans. Ça veut dire quoi, l'exploiter? C'est entre le moment où tu arrives à peu près à une forme finie et le moment où tu arrêtes de le jouer sur scène, quoi. Donc à chaque fois, en fait, j'ai des trucs plus ambitieux. Donc en janvier, je savais pas si j'allais réussir à écrire des vannes. Donc je suis remontée sur scène, j'ai écrit des vannes. En février, enfin, je savais pas si j'allais réussir à rester plus de 5 minutes sur scène. En mars, je savais pas si j'allais réussir à jouer devant un public qui n'est pas forcément le mien, à qui. Après, en avril, j'ai commencé à faire payer mon rodage, j'étais la personne à payer, etc. Et là, en gros, j'arrive à la période la plus ambitieuse et la plus importante de la carrière de ce spectacle. C'est que j'ai donc je suis en autoproduction, j'ai loué la salle du Palais des Glaces, donc c'est quand même 500 places, 3 fois par semaine, et c'est un énorme théâtre à l'italienne avec un balcon, c'est vraiment exceptionnel. Et en fait, à chaque fois que je fais ces étapes-là, mon cerveau fait absolument tout pour que j'y arrive pas, en fait. Et c'est donc apparemment c'est un mécanisme humain. Bon, déjà, c'est pas humain de monter sur scène devant des centaines de personnes. Ton cerveau, enfin, ça date du néolithique, je crois, mais vraiment, ton cerveau, il est là, genre, une foule, genre, danger, tu vois, et s'enfuit absolument. Et en fait, moi, à chaque fois que je suis plus ambitieuse, j'ai absolument mon cerveau qui n'aime pas le changement, qui n'aime pas l'ambition, qui n'aime pas le risque, qui s'accroche à tout ce qu'il peut pour me faire peur, en fait. Donc ça va être genre n'importe quoi, genre je vais me comparer à d'autres humoristes, je vais me dire que tous les succès qui me sont arrivés jusqu'à maintenant, c'est du hasard, donc c'est aussi un problème de légitimité, syndrome de l'imposteur, mais ça va être tout, tu vois, ça va être tout à coup je m'interroge sur mon physique alors que je m'en fous complètement de mon physique, sur ma voix, je me compare avec des gens avec qui je me suis jamais comparée et tout. Et en fait, j'ai appris toute cette année, et je pense que pendant les 2 ans à suivre, parce que là je suis en train de réserver l'Olympia pour dans 2 ans, tu vois. Et en gros, toutes ces années, pendant toute cette année, j'ai appris à accepter ces voix, mais à ne pas les écouter. Mais c'est, ça demande vraiment une schizophrénie, quoi. Vraiment, en même temps, d'embrace et pas de les enfouir, tu vois. De pas dire, ça existe pas, cette violence que j'ai envers moi-même, etc. Mais en même temps, de considérer ces pensées, de leur faire un gros câlin, de dire, je sais que t'es là, je sais que t'as peur, c'est normal, mais je vais quand même y aller, tu vois. Et en fait, c'est hyper dur. Et parfois, je me sens hyper seule. Et en même temps, je suis trop fière parce que depuis le début de l'année, j'y arrive. Et quand je vois ce que j'avais peur de faire en janvier, février, mars, avril et tout, maintenant, ça me paraît de la rigolade, ça paraît être mon quotidien et tout. Il y a vraiment un moment où je me suis dit, je vais écrire 2 heures tous les jours et ça me paraissait impossible. Et j'ai complètement réussi à écrire 2 heures tous les jours.
My dream.
et voilà, donc je voulais un petit peu échanger avec vous si vous avez envie de me dire des choses sur... En fait, je me suis rendu compte que c'est ça, d'être artiste ou d'être entrepreneuse, c'est vraiment d'accepter de vivre avec ses doutes et de les... C'est pas de les surmonter, de les écraser, c'est pas du tout de ne pas douter, parce que j'avais beaucoup entendu avant même de devenir entrepreneuse des gens qui n'évoquaient jamais ces doutes, et j'étais là, mais comment c'est possible que moi je me torture autant et pas eux? Mais juste de vivre avec, et je pense les surmonter, c'est faire quand même et se dire, ok, je doute, c'est normal, ça fait partie de moi, je leur fais un câlin et je continue, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais moi, je trouve déjà, c'est trop cool que t'aies mis des... Enfin, que ça ait été progressif. Parce que moi, je sais, ce qui m'empêche de faire beaucoup de choses, c'est de me dire, bon,
l'Olympia
du coup,
demain.
Ouais, l'Olympia demain. Et du coup, je suis là, bah, j'y arriverai jamais. Et c'est vrai, si on fait pas marche après marche, on peut pas sauter d'un coup sans une perche, quoi.
Ouais.
Putain, je suis en putain de métaphore là.
Ouais, la métaphore, la reine des métaphores.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Non, après, mais c'est vrai. Et du coup, le fait que t'aies pris. La... Moi, c'est un truc qui me parle de ouf en ce moment, ce que t'es en train de dire. C'est pour ça que j'étais là, waouh, j'écoutais tout. Parce que de prendre les escaliers un à un, j'aimerais bien vous raconter mon cinquième quart d'heure là, juste pour ça.
Mais... Non, c'est un très très bon teasing.
Oui, c'est un super teasing.
Pour recevoir plein d'argent.
Non, mais ouais, c'est... et c'est fou de... d'aller, entre guillemets, contre toi. Mais je crois que c'est un truc de gens perfectionnistes aussi. Un peu de se mettre des bâtons dans les roues.
Toi aussi, t'as cru que c'était un gars qui s'appelait Jean Perfectionniste. À force de faire cette blague,
Jean Perfectionniste. Ouais, bah ouais, c'est un type que je connais bien, moi. Ouais, c'est bah mon c'est voisin moi, de palier.
Jeannot.
Jeannot Perfectionniste.
C'est mon vieux Jeannot.
Et ouais, je crois que c'est un truc d'auto-sabotage où tu te dis, bah en fait, ce sera pas parfait.
Je me rends compte de toutes les fois où j'ai écouté cette voix. Et là, je suis là, genre, no way, quoi. Genre, vraiment, c'est... Rien ne m'arrêtera. Mais c'est des trucs, mais c'est... Vraiment, je fais des cauchemars, alors que j'ai joué devant plus de 12 000 spectateurs cette année. Des cauchemars où je suis toute nue sur scène, il n'y a personne. Vraiment, les trucs hyper clichés, quoi.
Ouais, mais c'est des trucs de... Je pense que c'est des... ça reste des blessures d'enfance ou d'adolescence, où en fait, c'est des trucs qui t'ont marqué et que tu soignes au fur et à mesure, mais ça reste une peur profonde, tu vois, je pense.
Est-ce que toi, ça te fait ça aussi dans ta carrière, quand tu fais des sets de malades et
tout? Bah, en fait, c'est un des trucs dont je voulais parler plutôt en down, mais du coup, c'est intéressant qu'on en parle maintenant, c'est que moi, un truc que j'ai retenu là de ma vie et que j'essaye de pas oublier mais que j'ai tendance à oublier, c'est que souvent je suis en mode ok, ce soir ça va être la folie, je vais mettre le feu, je suis prête et tout, et j'arrive, il y a pas beaucoup de public, ou alors le public réagit pas comme je voudrais ou machin, et donc j'arrive avec une idée incroyable de la soirée avant même qu'elle se soit passée, et donc je me mets des bâtons dans les roues. Et il y a d'autres fois où j'arrive en me disant putain, j'ai trop la flemme d'y aller, et où du coup la soirée se passe trop bien parce que j'avais zéro attente. Et donc il y a un peu ce truc là aussi de jauger et de réussir à te souvenir, en fait, parce que les trois quarts du temps, les trucs, c'est des leçons que t'as déjà apprises 25 fois et tu t'arrives pas à te les remettre dans la tête, de se dire bah en fait il y a pas de bonne ou de mauvaise soirée, il y a juste un moment donné où ça va cliquer avec le public ou ça va pas cliquer avec le public, et c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute du public, c'est le moment présent dans lequel t'es et où toi t'es pas forcément dedans, les gens sont pas forcément dedans, il y a un truc où vous arrivez pas à être sur la même longueur d'onde. Et c'est pas grave, ça remet pas toute ta personne en question, ça remet pas toute ta carrière en question, c'est juste une fois et c'est pas grave. Et moi je sais que j'ai un peu tendance à, ouais souvent, ouais c'est ça, trop penser que ça va être super et du coup être hyper déçue et d'être en mode ah bah en fait c'était pas si super que j'avais pensé et du coup bah trop nul, alors que en fait bah, c'est pas grave, tu vois, j'ai fait plein de soirées qui étaient bof. Et j'ai survécu et j'ai pas arrêté de mixer pour autant, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse là, dans ce que tu dis, c'est comment est-ce que tu prends en compte ces émotions, ces sentiments et tout, et comment t'arrives à les surpasser?
Bah, vraiment, je fais des exercices. Moi, je suis très exercice, et donc je fais des exercices de légitimité, tu vois. Je réécris tout ce qui a marché. Souvent, j'ai remarqué quand je veux aller plus loin, donc par exemple, là, je suis en train de réécrire mon spectacle pour qu'il soit encore mieux. Par rapport à sa dernière forme, j'ai tendance, au lieu de dire bah c'est super là où j'en suis, je veux que ce soit encore mieux, à me dire c'était trop nul, je jette tout et je repars à zéro, quoi. Et en fait j'essaie vraiment de pas faire ça.
Ouais.
Je me force à regarder mes propres spectacles en me disant c'est génial. Genre hyper stressant, mais j'ai envie de mourir au début, je suis là genre t'auto-juge pas, etc. À vraiment genre apprécier se regarder les impros, et donc je fais des exercices de légitimité, quoi. Je peux le faire parce que ça, je vais y arriver, ça va être super parce que ça, et aussi à me concentrer sur pourquoi je le fais, quoi. Quels messages vont arriver, qu'est-ce que je vais être comme moment de vie dans la vie, quel moment dans la vie des gens, et les messages que j'ai envie de délivrer qui sont quand même importants, quoi. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile. Là je suis un petit peu en plein dedans, donc je suis pas méga positive, mais genre il y a deux semaines j'étais hyper déprimée, et là hier j'étais sur scène, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. Donc en fait ça dépend.
Puis j'ai l'impression que bizarrement plus t'avances en âge et en expérience, et plus parfois c'est difficile de le faire, parce que moi je me souviens quand j'ai commencé à faire de ma créativité un peu mon métier, c'est quand je suis arrivée chez Mademoiselle, et en fait j'avais tellement de l'innocence et je me disais tellement, mais quelle chance mais j'ai aujourd'hui de pouvoir écrire des articles qui sont gaulerie en plus, de faire des vidéos, de faire des podcasts et tout. Mais vas-y, mais je le fais à 200%, j'en ai rien à foutre, je me comparais avec personne. J'étais là, je le faisais à 200% parce que j'avais une naïveté, tu vois, où je me disais, bah, en plus, ça se trouve, ça va partir demain. Enfin, moi, j'étais en stage, donc voilà. Et quand ça devient vraiment ton métier et que, en plus, bah, tu vois, dans ton cas où t'as arrêté la scène et tu dois le reprendre, donc t'as déjà une expérience de la scène, mais il faut quand même s'y remettre et tout, bah, t'as ton cerveau qui se crée des murs que t'avais pas forcément avant. Quand t'étais plus naïf, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Eh ben, c'était un beau roller coaster, mes amis. Camille, je vois l'heure. Camille, t'as un rendez-vous après. Est-ce que tu veux y aller?
Ben.
Vas-y, hein. En vrai, c'est pas grave. C'est la vie de ce podcast. T'as un rendez-vous. Je préfère que tu sois pas en retard et pas stressée.
C'est parce que je suis en retard. J'étais très en retard. C'est Swan qui parle.
Ouais, je sais pas.
Je pense, vas-y, meuf.
Vas-y, Camille.
En vrai,
tu seras moins stressée.
Ok. Je suis désolée, faut que j'aille à mon rendez-vous, les 4 quarts d'os.
C'est pas grave.
C'est pas grave, Camille.
Tu sais.
Ok.
Et c'est un super rendez-vous.
Ouais.
Donc,
on a hâte de vous raconter.
Est-ce que c'est avec ton plan sieste?
Ouais, désolée, faut que j'aille faire une petite nappe. Allez, bisous.
Bisous, Cam Cam.
Bisous, Camille.
Une phrase de conclusion, c'est que. C'est qu'à chaque fois, j'atteins mes objectifs et bien au-delà. Et une fois que j'ai passé cette période d'inconfort, j'ai des périodes de bonheur pur, de grande fierté et où l'anxiété disparaît complètement parce que je me dis « Ok, tout ça pour ça, quoi ». Donc c'est,
ouais, bien
c'est,
sûr.
Voilà, c'est important de le dire quand même, quoi, parce que sinon, j'en parlerai pas.
Et
c'est un roller coaster.
Ouais. Et t'arrives à profiter vraiment de ce bonheur et à le garder, puisque moi, je sais que ça a été longtemps un truc que j'arrivais pas à en profiter.
Bah, c'est éphémère, mais ça arrive pendant de longues semaines. Et après, l'anxiété revient pendant de longues semaines.
Oui, ouais. Bah c'est la vie, quoi. C'est les up
c'est
and
ça.
Down, the card carder.
C'est le roller coaster.
Mais de, tu vois, bien serrer la main et se dire bravo, c'est
ouais,
bien,
bien sûr.
T'as réussi, tu sais, d'acknowledge le truc sans...
Ouais, je trouve ça difficile et je sais que c'est un truc, par exemple, moi, dont j'ai vachement parlé avec ma psy, bah, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Swan, c'est le côté de... t'es toujours dans « je veux plus, je veux plus, je veux plus » et dans « je serai plus heureuse quand » et « je serai mieux quand » et machin, au lieu d'être dans le présent et d'être en mode « en fait, comparé à il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu m'aurais dit il y a 10 ans que je ferais un podcast avec mes copines, que je serais DJ, enfin tu vois, il y a plein de trucs où je suis en mode « j'avais même pas imaginé ça en fait, tu vois, c'était tellement pas du tout dans ma tête à ce moment-là » que du coup, peut-être, c'est bien de se faire une tape sur l'épaule, rien que pour ça, en mode, c'est bien, t'es sorti de ta zone de confort et t'as fait plein de trucs que t'aurais jamais pu imaginer. Ouais. Et en fait, souvent, moi, je me suis fait... j'ai un peu le truc des souvenirs et tout machin, et je me suis fait une vidéo pour moi dans 5 ans, en 2020, je crois.
Ah putain, j'ai fait la même.
Et j'ai trop hâte de la re-regarder parce que je pense qu'en 2025, il me sera arrivé des trucs, j'aurais pas vu venir, tu vois. Genre, je me serais pas dit, genre, ah oui, grave, tu vas faire ça. Même peut-être aujourd'hui, des trucs qui vont m'arriver en 2025, j'y aurais pas pensé.
Trop
donc
bien.
C'est ça qui est cool aussi, je pense. C'est aussi
mais est-ce qu'on peut se promettre peut-être de se faire des moments de 10 minutes de célébration de,
ouais, de fou.
De choses qu'on
de
a réussi. Ouais.
De femme de
et
conclusion.
Moi, ma coach psy, je sais pas si je vais le faire, mais elle m'a dit que cette semaine, il fallait que je me fasse un hôtel AUTEL pour mon cerveau. Parce qu'en gros, j'arrête pas de me dire que j'écris pas assez bien et que je suis pas assez forte, etc. Et elle me dit, tu vas féliciter ton cerveau toute la semaine et tu vas faire... Genre, elle m'a dit, je m'en bats les couilles, mais tu te fais des petites cérémonies, tu mets des bougies quelque part et tout, et tu célèbres ton cerveau de ouf qui a écrit un spectacle de stand-up. Enfin, tu vois, genre...
Ouais.
Et donc, je pense qu'il faut se forcer à faire ça, comme les gens se forcent à faire du sport et tout, à célébrer les victoires incroyables.
C'est vrai, c'est un vrai exercice.
True.
Très important.
Eh ben, écoute, merci Swan pour ce roller coaster.
Merci Swan.
Très intéressant. Merci les amis.
Et super cet épisode. Je suis triste que Camille soit partie. Car c'est l'heure de mon up.
Ouais.
Mon up va être moins deep que tous les sujets qu'on a abordés jusqu'à présent. Mais c'est quand même un super up. C'est un film. Et ça fait 2 semaines d'affilée que je viens dans 4 quarts d'heure avec un élément cinématographique. Donc en fait, que se passe-t-il dans ma vie?
Êtes-vous Kalindi Ampel?
Je suis devenue Kalindi Ampel. Le film dont je voudrais vous parler, il s'appelle Bottoms. Et c'est réalisé par Emma Seligman. Est-ce que ça vous parle?
Non.
Non.
Ah, attends, Emma Seligman, ça me dit un truc, moi. Elle n'avait pas réalisé...
Alors, elle a
c'est
réalisé...
pas elle, Shiva Baby?
Si, tout à fait.
Ouais. Je l'adore.
Tu l'adores?
J'adore Shiva Baby.
Eh ben, tu vas adorer Bottoms, je pense.
Ah.
Ça s'appelle L'écu. Les culs, ouais. Louane serait ravie, elle arrête pas de dire cul, cul, cul.
C'est vrai que Louane dit beaucoup cul. Donc, en gros, c'est avec Rachel Sennott, qui est une actrice qui a fait partie d'une sitcom qui s'appelle Call Your Mother. J'ai jamais entendu parler, mais je me suis dit, je fais la ref pour les gens qui ont vu. Et Ayo Edebiri, qui est dans la série The Bear.
Ah oui.
Qui est la chef dans la série The Bear.
Super.
Donc, pour les gens qui ont vu, c'est une super série. Et donc, c'est un teen movie. Mais de 2023, et franchement, ça change tout. Et c'est, je pense, le meilleur teen movie que j'ai vu depuis Booksmart.
Ah oui, c'était bien Booksmart. Ouais.
Booksmart,
j'ai aucune ref.
Alors, Booksmart, c'est
c'était
un...
Olivia Wilde.
Ouais, exactement, c'est un film d'Olivia Wilde.
Les connaisseuses.
Et c'est un film sur deux meufs qui. C'est le dernier soir, je crois, de leur terminale. Et c'est des grosses intellos qui ont tout étudié comme il faut, machin. Et elles vont rentrer en Ivy League. Et elles doivent faire la dernière soirée du lycée. Et elles sont en mode, OK, ce soir, on va tout vivre ce qu'on n'a pas vécu pendant des années.
Wow.
Et en fait, elles se rendent compte au fur et à mesure du film que les trois quarts des gens qu'elles prennent pour des bolos qui n'ont pas taffé la moitié du temps, ils vont quand même en Ivy League parce que bah, ils ont des bourses sportives ou ils ont d'autres trucs. Enfin, tu sais, en fait, ouais. Où ils ne sont pas si cons que ça. En fait, elles n'avaient pas besoin d'arrêter de vivre pour entrer en Ivy League parce qu'en fait, il y a des gens qui ont quand même... qui sont quand même bien amusés pendant le lycée et qu'ils sont quand même rentrés dans une grosse fac américaine. Et c'est toute leur soirée et c'est hyper idiot, très gaulerie, très bien écrit, c'est assez féministe dans plein de sujets, tu vois. Et du coup, moi, j'avais adoré ce film à l'époque. J'étais vraiment en mode, je l'ai vu, je pense, deux ou trois fois en trois semaines parce que j'étais en mode, il était vraiment chambé. Et la playlist du film est super et tout. Et donc là, ça y est, j'ai trouvé, pas un remplaçant, mais une suite à mon kiff de Booksmart. C'est donc Bottoms. Alors pour vous faire le pitch rapidement, et je vais essayer de le faire sans trop spoiler, mais c'est donc deux potes qui sont lesbiennes. Elles s'appellent PG et Josie. Et elles sont bien sûr vierges au lycée. Et c'est les meufs les plus unpopulaires de la planète, bien sûr. Car sinon, c'est pas un teen movie correct, tu vois. Et elles ont bien sûr des crushs sur les cheerleaders du lycée, qui sont Isabelle et Brittany. Et
en évidemment.
Fait, bien sûr.
Exactement.
Évidemment. Et donc au lycée, en gros, en background de leur histoire, il y a une compétition de football américain où il y a l'équipe de leur lycée qui va affronter leur némésis historique, tu vois. Genre, c'est l'autre équipe qui est... genre, à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est un carnage, quoi. Un carnage littéral, puisque apparemment, l'autre équipe agresse des gens de leur lycée.
Yes, I.
Voilà. Mais en fait, tout est tourné de manière si idiote que tout est drôle. Et donc, suite à un espèce de micmac, elles vont créer un self-defense club dans leur lycée, en mode, comme il y a des agressions auprès des étudiants de notre lycée, nous, on veut se défendre, on est des meufs, on en a marre de se faire taper dessus, et voilà, et donc du coup la sororité, on va faire un club de meufs de self-defense et ça va être stylé. C'est soi-disant ce qu'elles disent à tout le lycée, en vérité elles le font pour bien sûr pécho leur
pécho
crush
MDR.
et en fait du coup se crée ce club de self-defense et donc elles font croire qu'elles ont fait de la prison pour mineurs, donc la juvie, parce que du coup elles veulent se donner une street cred pour faire le club de self-defense. Et bien sûr, elles y connaissent rien. Et donc, c'est vraiment un film absolument débile et grotesque, mais genre dans le bon sens du terme, parce que vraiment, tous les dialogues, j'ai tellement rigolé. Vraiment, le tout début du film, elles sont toutes les deux, elles marchent dans le lycée et tout, elles sont en mode, putain, mais pourquoi tout le monde nous déteste ça, c'est parce qu'on est gay, en fait, c'est parce qu'on est des lesbiennes et tout. Et là, passe le gay populaire du lycée qui fait du théâtre et tout, elles sont en mode, ah non, en fait, c'est pas parce qu'on est gay. Aujourd'hui, on peut plus nous détester juste parce qu'on est LGBT. On nous déteste parce qu'on est LGBT et untalented. Et donc, déjà, j'étais en mode, je crois que c'est la minute 3 du film, et j'étais en mode, ok, c'est déjà très gaulerie. Et donc, il y a plein de personnages qui sont archi drôles, bien écrits, détestables et hyper débiles. Le personnage du quarterback, qui est forcément le boyfriend de la cheerleader Isabelle, c'est vraiment le white guy par excellence, mais ils ont poussé le truc au maximum, tu sais, genre ils ont mis tous les potards à fond. Et donc il y a une scène à un moment donné, c'est dans le self, où donc bien sûr il se fait servir par toute son équipe parce que c'est le quarterback, tu vois. Et donc ils sont attablés et c'est vraiment la scène Mais la scène,
ah, la scène
de Jésus. Et donc lui, il est au milieu, il y a un espèce de tableau de la Renaissance derrière, où c'est sa tête qui a été remplacée, tout, c'est débile. Et donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont idiots, mais en plus, c'est divinement bien écrit. À un moment donné, elles ont besoin d'un prof qui supervise leur club, parce que quand même, elles font un club pour se taper sur la gueule. Donc, donc du coup, elles vont voir leur prof d'histoire, je crois. Et le prétexte pour qu'il soit leur superviseur, elles vont le voir et du coup elles sont en mode ouais, est-ce que vous pourriez, et en mode mais pourquoi vous n'allez pas voir une de vos profs féminines, tu vois, parce que vous faites un club en non-mixité, et elles disent non mais on les déteste. Et tu sais, genre, elles sont hyper pas féministes, juste elles sont en mode on veut pécho, tu vois. Et donc elles choisissent ce prof là parce que c'est genre un peu un dilettante, tu vois, et elles sont en mode non mais alors vraiment nous, notre moyen préféré d'être allié, je pense, c'est pour qu'il soit pas trop investi, elles lui disent bah c'est de dire que tu fais des trucs pour une cause, mais en fait de pas faire les trucs pour une cause, c'est vraiment le meilleur moyen d'être allié. Et donc vraiment c'est mais tellement drôle et piquant, tu vois, et j'ai passé un tellement bon moment, j'ai trop ri, il y a trop de dialogues trop drôles, et c'est à la fois what the fuck à mort, enfin il y a vraiment des trucs, c'est bien sûr ça n'existerait pas dans la vraie vie, mais c'est toute la beauté d'un teenage movie. En vrai, les trois quarts des teenage movies, ils n'existent pas dans la vraie vie.
Ouais, c'est trop bien. Et on peut le voir où?
Et c'est sur Amazon Prime.
Ok.
Et franchement, j'ai trop rigolé. Et apparemment, il est pas sorti en salle. Et j'étais vraiment
mais
très
parce
étonnée.
Que ouais, c'est moi, je me souviens quand j'avais vu Shiva Baby, c'était à Deauville, mm-hmm. au Festival du film américain. Et en fait, c'est souvent des films qui trouvent pas de distributeurs en France, ouais. Parce que c'est des jeunes réalisateurs américains du cinéma indépendant. Alors autant en France, on regarde du cinéma américain mainstream,
ouais.
Mais indépendant
pas trop
rarement. Ouais. Et elle, enfin vraiment, ça a été un de mes coups de cœur du festival. Donc si t'as aimé Bottoms, je pense que tu peux aimer Shiva
okay.
Baby,
trop bien.
Qui est aussi complètement zinzin. C'est, tu sais...
Mais c'est avec la même actrice principale, du coup.
Ouais.
Putain, mais j'ai trop. Je vais me regarder ces deux films. Je suis hyper contente.
J'ai vraiment trop rigolé et ça m'a fait du bien en fait de voir un film LGBT qui se prend pas au sérieux et en même temps qui est très sérieux parce qu'en fait tout ce dont elle parle, c'est vraiment la vérité, mais de manière drôle. À un moment donné, elles sont au club de self-defense et elles se disent bon, on va faire un peu de. Comment on dit, de team building, tu vois. Et donc, elles sont toutes assises en cercle et tout. Elles sont en mode, bon, bah, on va parler de nos sentiments. Et la meuf qui... Le personnage principal dit, bon, bah alors, qui s'est fait violer? Et donc, elle lève la main. Et t'es en mode, mais what the fuck? Et donc, toutes les meufs, elles se regardent en mode, pardon, mais... Et après, elle dit, la zone grise, ça compte. Et là, tout le monde lève la main. Et je suis là, aïe, aïe, aïe. Ça
ah,
pique.
C'est hyper drôle.
C'est drôle et en même ouais. temps si vrai. Du coup,
oh là là, c'est trop drôle.
Voilà, donc ça m'a fait mourir de rire. Il y a trop de moments comme ça où je suis en mode, je voudrais vous raconter ça, 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 mais je vais pas vous spoiler toutes les blagues de ce film.
Ouais, non.
Mais vraiment.
Les Américains sont
et
trop
moi,
forts.
Moi, j'ai une question par rapport à ça.
Ouais.
Je me pose souvent la question, bah, notamment dans mon talk show il y a plus de saison. Est-ce que vous croyez que c'est... Enfin, moi, j'adore faire des blagues sur le wokisme parce que je suis connue pour être hyper féministe, hyper ouais. écolo. Donc, c'est très, très simple pour moi de se moquer des féministes, des écolos, étant donné que je suis connue déjà pour être
ouais,
féministe
ouais.
et écolo. Donc, c'est trop bien parce que bah, mon premier invité, c'était Jean Covici. Ma première vanne, c'était vraiment genre Jean-Marc Jean Covici, quel honneur de vous avoir ici parce que c'est tellement rare de donner la parole à un homme blanc
oui.
de plus de 50 ans dans les médias. Surtout pour expliquer un truc à une femme. Donc, vraiment, quel honneur quoi, de vous avoir ici. Quoi. Ça, c'était vraiment la première vanne et tout. Donc, moi, ça me fait beaucoup rire. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire tout ça. Mais parfois, je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop auto-centré? Est-ce que ça va pas faire rire que les gens qui sont sensibles comme moi, qui connaissent, etc. Par exemple, là, tu viens de faire la vanne zone grise.
Ouais.
Donc, moi, j'en ai déduit que c'est on sait pas trop si on a été violé ou pas, c'est ça?
Oui, ouais, c'est,
voilà,
bah, c'est genre, on n'a pas dit non, donc
ouais,
c'est
voilà.
pas un viol. Mais
donc,
bon.
J'ai compris. Mais c'est la première fois de ma vie que j'entends zone grise, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc, dans quelle mesure... Mais par contre, j'adore quand je vois ces blagues-là et qu'on me croit intelligente.
Mm.
Et du coup, de deviner et faire zone grise. Et de regarder à gauche, à droite, j'ai compris, zone grise. Tu vois. Et du coup, ma question, c'est vraiment sur l'humour. Genre, est-ce que vous pensez que c'est bien ouais, de faire des blagues comme
bah,
ça et c'est pas trop centré sur des petits milieux?
Non, mais
parce
en
que
fait,
moi, j'adore.
Je pense, en fait, le truc, c'est que c'est toujours la même chose, c'est que l'humour, il parle à une certaine frange de la population, je pense en fonction de quel humoriste tu vas voir, il y en a qui vont te faire grave gaulerie et d'autres pas du tout, et c'est pas grave, et moi en tant que meuf, ça me fait plaisir de voir des blagues sur des trucs que j'ai vécu et que, sur lesquels en fait les trois quarts du temps quand même, on est en train de fighter et on est en colère, tu vois, et de pouvoir faire des blagues là-dessus et de se dire genre... C'est smart parce que ça dénonce un truc en vérité. Et pourtant, on va pas non plus
pleurer tout le temps.
Si on pleure tout le temps, on peut plus faire grand chose, tu vois. Donc moi, je trouve ça cool. Et je me dis, en fait, c'est pas grave. Je pense que ça peut se faire poser la question à plein de gens aussi de se dire, genre, tiens, ça, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, genre, zone grise. Enfin, je suis pas sûre que tu sortes de Bottoms en te disant, genre, tiens, je vais aller chercher ce que c'est la zone grise.
Ouais, mais t'as compris quand même.
En fait, il y a plusieurs trucs. Ou tu vois, genre, ça te fait tiquer. Enfin, genre, le truc des gays untalented, j'étais là...
c'est hyper drôle.
Archi drôle parce qu'en fait, true, tu vois, genre, s'il y a vraiment un truc de genre, ah ouais, les personnes queer, on les célèbre. Mais parce que, elles font ci, elles font ça, elles font ça. Mais juste être
queer...
Ouais,
si t'as envie d'être, de traîner
ouais, voilà, c'est
début
ça.
En jogos...
Voilà.
Et de pas donc, recommander...
Je trouve ça assez intéressant, quoi. Comme en fait, la réflexion qu'il y a derrière. Et après, tu le prends... Soit parce que tu fais partie de la communauté ou que c'est un truc qui te parle et que t'en rigoles. Le truc d'être un bon allié, c'est dire que tu fais des trucs et
c'est
ne rien
très
faire.
Drôle, ça.
C'est en mode... Ah, c'est si drôle parce qu'elle tacle tellement de gens à la fois. Et en même temps, je pense que les mecs qui se disent alliés et qui font rien vont peut-être se sentir un peu piqués.
Ouais, c'est
tu
drôle,
vois, genre,
c'est
enfin, je sais pas.
Mais après,
moi,
j'en parle. Vrai, c'est vrai que ça parle qu'à une partie
oui,
de la population parce que, en fait... Aussi, les Américains, je trouve qu'ils s'autorisent beaucoup plus ça que nous. En France, on a très longtemps ignoré le fait qu'il y avait différentes communautés. On était là, mais attends, quoi ? Mais non, on est tous pareils, on
ouais,
est tous égaux, tu vois, il n'y a pas de communauté et tout. Alors que les Américains, ils vivent de manière communautaire depuis tout le temps, tu vois. Et aussi, c'est un peuple qui est beaucoup plus grand que le nôtre.
Ouais.
Et du coup, la communauté, elle est d'office plus grande, quoi. Donc, il y a des moments où, moi, il y a des blagues que je vois. Et en effet, ça me fait gaulerie, mais je me dis, putain, si t'habites pas à Paris et que tu travailles pas dans un média féministe, comment avoir cette vanne ? C'est parfois un peu compliqué.
Mais je pense que ça peut faire deviner aux gens, parce que moi, sur scène, je fais cette vanne, parce que souvent, dans mon public, il y a 90% de femmes. Et donc, je fais des blagues sur les hommes qui sont là, parce que souvent, ils sont plus timides, ils osent moins crier et tout. Et donc, je me moque d'eux, tu vois, je les fais genre tout droit et tout. Je dis, je ne suis pas féministe, je suis alliée des féministes. Et donc, tout le monde rigole et tout. Et je dis, je rigolerai aux vannes seulement après avoir vérifié à gauche et à droite que c'est pertinent pour moi de rigoler à ces vannes, sans jamais que mon rire ne couvre celui de celle du voisin. Donc, en fait, en même temps, je me moque du wokisme un peu trop exacerbé, de moi-même, de nous,
oui, bien sûr.
Des féministes hyper engagées qui vont tout surveiller, sauter sur n'importe qui, n'importe quand. Mm-hmm. En même temps, je fais un clin d'œil de reconnaissance envers ces mecs qui se mettent pas en valeur dans mon public et qui sont pas là à prendre toute la place,
ouais,
à
bien.
Parler, à crier, ouais. etc. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent. Tu vois, par exemple, je pense qu'il y a plein d'hommes qui se disent comment ça, je suis pas féministe, je suis allée des féministes, mais ça les fait travailler quand même.
Ouais, bien sûr.
Ouais, je pense que mais tout le monde rigole quoi. Mmh. Vraiment, tout le monde rigole. Donc ouais, je pense qu'il y a des vannes qui, quand tu leur donnes un peu la main, tu vois, tu peux les emmener vers. C'est pareil en écologie. Je fais plein de blagues en disant moi je me sens trop écolo parce que je fais ci ça ça. Bah les gens ils rigolent. Mais comme ça, ils entendent que si ça, c'est écolo, tu vois.
Oui, bien
donc,
sûr.
Alors qu'ils n'en avaient pas forcément idée. Quoi.
Mais tu vois, moi, ça me fait penser à Fahri dans son spectacle qui fait plein de blagues sur les blancs. Il était en mode, bah ouais, je fais partie des blancs qui sont au spectacle. Forcément, je suis visée, tu vois. Mais genre, après, à toi d'avoir de l'humour et du second degré et d'être en mode. Enfin, tu vois, dans ce cas-là, on va être en mode not all men et not all white people et machin. T'es en mode, non, c'est bon, en fait, on a compris. On est assez grand pour se détacher de notre ego. Quand on parle des blancs, on sait très bien de qui on parle. On parle du système, tu vois, genre...
Et oui, du mais coup, après, si, par exemple, moi, je suis déjà allée voir un humoriste qui faisait des blagues sur les meufs, alors que c'est un homme blanc, tu vois.
Oui.
Bah, c'est pas la même chose, tu vois. Non, quelqu'un qui fait du wokisme, enfin, qui fait des blagues
bien
sur le wokisme, mais qui est pas concerné.
En fait, c'est tout le truc que je trouve génial dans Bottoms, c'est que tout est fait de manière intelligente et tu sais que c'est écrit par des gens féministes en fait. Mmh. Enfin genre ça s'entend dans les blagues, ça se voit dans la manière dont c'est
oui,
fait.
Oui, ils ont plus besoin de le prouver.
Ouais,
c'est là que l'amour a, l'humour parce que j'aime trop l'humour a vraiment une responsabilité et aussi un signe d'intelligence. C'est que moi par exemple quand j'invite une Camille Etienne dans il y a plus de saison, donc une meuf de mon âge, blanche, qui habite à Paris, qui a fait Sciences Po Paris comme moi, enfin, bah là, je peux la tacler. Et j'ai une autre invitée qui s'appelle Fatima Wasak, qui est une femme anticolonialiste, antiraciste, complètement féministe, écologiste, etc. Ouais. Moi, je suis pas connue comme la meuf la plus antiraciste du monde. Je suis pas raciste, mais c'est pas vrai que je prends la parole tous les deux jours contre les violences policières, contre le racisme systémique. J'en parle un petit peu, mais c'est de temps en temps. Donc je vais pas arriver et dire alors. On est anti-raciste, pouette. Genre, enfin, oui, tu vois, c'est. En fait, je sais que.
Faut doser, faut savoir où on se place, quoi.
Dans la préparation de cette émission, ça demandait beaucoup plus de recherche et beaucoup plus d'humilité, en fait. Mm-hmm. Tu vois, et de moins aller au combat avec les meilleures vannes, sans aucune limite, tac. Bah, parce que j'ai trop à apprendre, quoi. Donc. Ouais. Donc voilà, il faut avoir cette intelligence. Voilà. Et pareil, je fais beaucoup de blagues sur le fait que je couche avec des gens plus jeunes quand je suis sur scène. Et il y a un mec typique du stand-up, 35 ans, blanc, gringalet, pas connu et aigri du stand-up, qui m'a dit « Ouais, t'imagines s'il y a un mec qui faisait les mêmes blagues sur « Je couche avec des meufs jeunes » ?» Et j'étais « Ah non, c'est pas la même chose, justement. »
C'est vraiment pas la
et
même
chose. Et du coup, j'en parle sur scène. Je dis « Bah ouais, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. » Et j'ai eu le malheur de... Mais moi, je suis hyper contente, mais d'avoir sexualisé à mort un économiste qui est hyper sexy que j'ai invité, qui s'appelle Timothée Parik. Donc, par ailleurs, c'est un ami, et on se connaît bien, et on se dragouille toujours pour rigoler, tu vois. Mais j'ai eu le malheur de le sexualiser sur scène et tout, donc c'est hilarant, mais c'est hyper edgy, quoi, et complètement incorrect, parce que j'arrête pas de dire, bah en fait, je l'invite pas parce qu'il est économiste, mais parce qu'il est hyper sexy. Mais en fait, c'est super drôle et c'est super osé de faire ça sur scène.
Bah ouais,
et je me suis fait démonter par tous les gens qui, je pense, n'ont pas de culture féministe et qui sont là, ah bah ici, les garçons, c'est la même chose et tout, c'est pas la même chose, parce qu'on n'est pas dans un système patriarcal, quoi.
Ouais,
enfin, parce qu'on est dans un système patriarcal, pardon, et qu'une femme qui fait ça, c'est pas la même chose.
Ça a pas le même impact. Et oui. Bon, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. On a un petit peu dépassé, parce que je suis pas une excellente maîtresse du temps aujourd'hui. J'avais envie qu'on puisse parler librement. Merci infiniment, Swan, d'être venue dans 4 quarts d'heure. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir.
Merci à toutes.
Je rappelle qu'on peut te retrouver dans le podcast Il y a plus de saison, qui est aussi un spectacle. Est-ce qu'il y en aura encore en 2024?
Et oui, tout à fait. Il faut taper Il y a plus de saison, Swan Périssé, sur Internet pour trouver les dates.
Comme ça, vous trouvez les dates et les places pour venir le voir en direct, finalement. Et puis, vous pouvez aussi aller voir Swan en spectacle. Le spectacle s'appelle Calme. C'est au Palais des Glaces, du jeudi au samedi, à partir du 11 janvier. Et après, en avril, ça sera en tournée dans toute la France.
Ouais, j'adore dire ça.
Énorme. Incroyable. Merci, Alix. Merci, Cam, même si tu n'es plus là.
Et moi, je serai en tournée aussi en toute la France.
À toi.
À Noël, je fais le tour de mes cousins, donc si jamais.
Hyper impressionnant.
Impressionnant. Écoutez, cher 4 Cardos, merci de nous avoir écoutés. On vous
souhaite cette année,
encore une fois, joyeuse fête, joyeux Noël. Je ne sais pas, pour ceux qui ne fêtent pas Noël, on pense aussi à vous, car vous méritez aussi de passer 2 semaines paisibles, cool, et merveilleuses.
Et puis une belle fin d'année, on se voit de l'autre côté.
Bah ouais, on se voit de l'autre côté. Nous, on prend une petite semaine de vacances. On vous fait quand même un petit 5e quart d'heure là, qui arrive juste après. Donc si vous voulez vous abonner, c'est dans les notes du podcast. Sur toutes les applications de podcast, vous pouvez avoir un petit flux privé pour avoir le 5e Cardos. Et puis, nous, on se dit
à dans 492
milliards de quart d'heure.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.